Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, le bonheur est-il dans les fêtes de fin d'année? On en parle avec notre invitée Marianne Chaillant, professeure de philosophie à Marseille, spécialiste de pop culture, littérature, séries, cinéma, variété française, auteure d'ores et déjà de Harry Potter à l'école de la philosophie, de la playlist des philosophes chez Ellipse, de Ainsi philosopher Amélie Nothomb chez Albin Michel ou encore de In Pop We Trust, paru l'an passé aux éditions des Équateurs et pour laquelle on la reçoit. Pour cet ouvrage. La philosophie, comme auxiliaire de vie, elle y croit, elle le dit. Philosopher, c'est se mettre dans de bonnes dispositions, celle d'être heureux, un plaisir contagieux. Pour autant, et si, à trop chercher le bonheur, on risquait de se heurter au malheur. Bonjour à vous, Marianne Chaillant.
Bonjour Olivia.
On va voir, on va tenter plusieurs chemins, plusieurs scénarios aussi pour essayer d'accéder à un petit morceau de bonheur avec vous d'ici 13h30. Quand vous avez débuté l'écriture de ce livre, en juin dernier, la tempête faiblissait, écrivez-vous. Le défi restait grand, parler de bonheur après l'année pandémique que nous avions traversée. Il l'est encore plus aujourd'hui, encore plus grand ce défi, alors que la tempête est repartie de plus belle à quelques jours des fêtes de fin d'année.
Bien. Pas eu trop d'appels, Thérèse?
Non, rien de grave, non. La routine, quoi, hein? Vous voyez, depuis 18h, nous n'avons eu qu'un appel.
C'est cela, oui.
Allô, SOS Détresse Amitié, bonjour. Je vous écoute.
Allô? SOS Détresse? Allô?
Allô? Je ne vous entends pas.
Allô, SOS Détresse? Je suis au bout du rouleau, là. Qu'est-ce que je dois faire?
Allô? Appuyez sur le bouton. Allô? Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne.
Dites donc, Thérèse. Un seul appel depuis 18h pour un soir de Noël, c'est tout de même très calme.
Oui, mais notez, d'un sens, tant mieux.
Voilà, et avec Omicron, il y a des risques que le téléphone sonne beaucoup plus souvent que ce soir-là. Extrait du Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiret, sorti en 82. C'est le soir de Noël. Pierre, joué par Thierry Lhermitte, et Thérèse, Anémone, s'apprête à assurer la permanence de SOS Détresse Amitié. Marianne Chaillant, d'où nous vient ce blues de Noël?
Je crois que la période des fêtes exemplifie parfaitement comment l'injonction au bonheur peut être la cause de notre malheur. Parce que dans cette période de fêtes, on a d'un côté une image qui nous est offerte et à laquelle on devrait coller l'image d'une famille unie, sans aucune brouille, d'une famille entièrement réunie, sans aucun disparu, sans aucun absent, d'une famille riante, sans aucune maladie ou souffrance, et puis de l'autre, notre réalité, qui est nécessairement tissée d'incomplétude, de deuil, de souffrance. Et cette période-là, où on nous formule une sorte d'injonction au bonheur, d'un certain impératif du bonheur, qui en plus est défini, nous rend profondément malheureux. Je ne sais pas vous, mais moi je connais vraiment beaucoup de gens pour qui ces fêtes sont une corvée dont on a hâte d'être débarrassé.
Et qui y vont avec appréhension. Le cinéma est là pour nous le rappeler. Du Père Noël est une ordure à Festen, en passant par un conte de Noël. Dans un sens, tant mieux, dit Anémone Thérèse à la fin de cet extrait du Père Noël est une ordure. Et de l'autre, est-ce que Thérèse est déjà en train de philosopher pour vous dans cet extrait, Marianne Chaillant?
Oui, elle se réjouit parce qu'elle se dit, au fond, il n'y a qu'une personne qui semble être en situation de requérir les services d'SOS Détresse Amitié, bon, il n'y a qu'une personne qui a osé appeler, en fait. C'est ça, la vérité. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui ose dire son malheur dans cette période où tout le monde doit se réjouir et où avouer qu'on ne se réjouit pas ou qu'on a des raisons de ne pas se réjouir serait une forme d'aveu d'échec. C'est ça aussi la tyrannie du bonheur qui va bien au-delà de cette période des fêtes, hein, qui est cette idée qu'il faut être heureux et que toute personne qui ne serait pas heureux, du moins de la manière dont on définit le bonheur, aurait raté quelque chose. Donc il y a un sentiment de culpabilité, un sentiment d'échec chez celui qui sent bien les incomplétudes dont sont tissées sa propre existence et qui n'ose pas dire qu'il n'est pas heureux. Ça, c'est triste.
Et Noël, pour beaucoup, les fêtes, c'est aussi le moment où on imagine, comme avec ses yeux d'enfant, cette montagne de cadeaux qui potentiellement nous attendrait sous le sapin de Noël. Le bonheur matériel que nous vantent aussi les publicités ne sauve de rien, dites-vous. Le bonheur s'apparente parfois à un impératif social tyrannique, y compris dans les représentations commerciales qu'on nous en donne, hein.
Oui, vous mentionniez tout à l'heure mon ouvrage sur Harry Potter. Vous connaissez probablement le cousin de Harry Potter, Dudley Dursley, ce garçon qui, à chaque Noël, reçoit tellement de cadeaux que l'année suivante, il lui faut encore plus de cadeaux pour parvenir à une satisfaction qu'il n'atteint jamais. Donc, ce garçon, en contrepoint du personnage de Harry Potter, qui lui, voilà, est dans le manque et la privation, apparaît comme inapte à la possibilité du bonheur, alors même qu'il semble coller à cette définition du bonheur comme l'obtention d'un certain nombre d'avoirs, d'un certain nombre d'objets qui pourraient nous rendre heureux. Mais effectivement, il y a dans ces fêtes et dans leur dimension aussi, c'est pas la seule, hein, mais cette dimension effectivement consumériste, quelque chose qui est en contresens sur le concept de bonheur.
Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avouer un peu plus facilement ses tristesses, si c'est le cas, c'est déjà un premier pas vers le bonheur pour vous, Marianne
Schaeffer? Oui, c'est bien sûr, parce que c'est déjà un premier pas qui permet, je crois, pour celui qui s'en fait l'aveu, c'est pour celui qui se fait l'aveu à lui-même et aux autres, qu'il ne parvient pas à cet état de complétude qui serait, dit-on, à tort, le bonheur. Reconnaître sa propre incomplétude, c'est déjà un premier pas pour cheminer ensuite vers une autre définition de ce qu'est le bonheur. Quand on a réalisé que cette incomplétude, elle n'est pas un aveu d'échec, mais qu'elle est indépassable, elle est consubstantielle à l'existence. Aucun d'entre nous ne parviendra jamais à cette satisfaction absolue, à cette plénitude, à ce ciel bleu sans nuages, à cette joie sans souffrance. Et à partir du moment où on reconnaît non seulement que nous sommes tissés à la fois d'un envers et d'un endroit, mais que l'existence même est faite de ce côté pile et de ce côté face, et que c'est indépassable, alors on est conduit nécessairement soit à faire le deuil définitif du bonheur et à se dire, eh bien, donc, puisqu'il y aura toujours des nuages, toujours de la souffrance, le bonheur est une illusion. Soit c'est ça, soit on se rend compte que l'illusion du bonheur n'est pas celle de son existence, mais celle de sa définition. L'illusion de la définition, définition d'ailleurs qui n'est pas propre à notre temps, qu'on trouve sous la plume de philosophes comme Kant, qui dit que le bonheur, c'est la satisfaction de tous nos désirs, tous, en extension, en intensité et dans la durée. C'est une définition classique, le bonheur. N'est pas la joie, c'est pas la jouissance, c'est pas le plaisir, c'est cette espèce de plénitude d'absolu. Ce concept donc ne date pas d'aujourd'hui, néanmoins, il est à la fois fou, complètement fou, on le voit bien à partir du moment où j'en rapporte la définition, comment pourrait-on atteindre cette plénitude ? Et parce qu'il est illusoire, il devient toxique, puisque si on y croit, alors nécessairement, on est profondément malheureux lorsqu'on se retourne sur sa propre existence et qu'on en constate tous les manques et toutes les incomplétudes.
Vous le dites, hein, sur cette définition du bonheur, elle est importante. Il faut qu'on sache quand même ce qu'on cherche, hein, pour commencer, sachant qu'il n'est pas réductible au plaisir, Épicure, que ce n'est pas non plus être satisfait. Le bonheur n'est pas toujours pas la joie, en tout cas il ne se résume pas à ça. Vous avez, vous, cherché dans les premières pages de cet essai, de cette réflexion, alimentée par les questions que vous posez à vos élèves, puisque vous terminez chaque année votre cours de philosophie par cette question, où est donc le bonheur ? Vous avez cherché cette définition du bonheur, et vous dites, c'est l'absence de trouble. À 10 ans, quand vous répondiez au questionnaire de Proust, que vous aviez tendu votre grand-mère, vous répondiez, aimer et être aimé. À la question « Où donc est le bonheur ?» Est-ce qu'avec les années, vous n'avez pas un peu revu vos ambitions à la baisse, Marianne Schaeffer ? Ou est-ce que vous êtes devenue sage ?
Oui. À la baisse ou à la hausse ? Parce que ma réponse, qui n'en demeure pas moins une partie de ma réponse actuelle, on reste humain, même quand on fait de la philosophie, donc imparfait et en tant qu'humain, mais... La définition que je propose dans le livre, la réponse, qui n'est d'ailleurs pas la mienne, que je tisse avec Montaigne, avec Nietzsche, avec Camus, est une réponse qui peut paraître une réponse revue à la baisse, mais qui est en fait extrêmement exigeante. Parce que la réponse que nous donnent ces philosophes, c'est que le bonheur se trouve dans l'assentiment que l'on donne à son existence dans toutes ses dimensions. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que c'est pas revoir ses exigences à la baisse que de dire, eh bien, soit je me contenterai d'un ciel troublé. C'est d'une certaine manière, c'est exiger de soi beaucoup plus de force que de se dire, eh bien, le bonheur n'est pas dans une plénitude, mais dans l'assentiment, l'acceptation et même l'amour, je parlais d'amour étant jeune, et même l'amour que je porterai à ma vie, quel qu'en soit le contenu, c'est-à-dire aussi bien dans sa dimension positive que dans sa dimension négative. Nous parlions des fêtes. Justement, le philosophe Nietzsche, nous allons probablement revoir fleurir ce texte un peu partout qui sort lors du réveillon du jour de l'an, un texte que Nietzsche a écrit dans Le Gai Savoir. Et à la manière de beaucoup d'entre nous, il se formule à lui-même des vœux pour la nouvelle année. Il fait une sorte de liste de résolutions pour le nouvel an. Ces résolutions à lui ne sont pas du tout d'obtenir telle ou telle promotion professionnelle ou telle satisfaction affective. Quand il exprime sa pensée la plus chère, quand il nous dit ce qu'il se souhaite à lui-même, il dit « Je voudrais toujours apprendre plus encore, avoir la nécessité dans les choses. Je voudrais faire mienne totalement cette devise amor fati, c'est-à-dire aimer la nécessité. Je ne veux mener aucune guerre contre le lait, c'est-à-dire je ne veux pas rejeter ce qui dans l'existence est tenu pour une expérience négative et douloureuse, la souffrance, le deuil, la maladie, la tristesse, la peine. Je veux, finit-il, en n'importe quelle circonstance, n'être rien d'autre qu'un homme qui dit oui. » Et ça, c'est un défi pour nous, au soir du 31 décembre de cette année, comme vous l'avez dit, pandémique. Nous sommes dans une circonstance qui n'est certainement pas agréable. Comment devenir ce soir-là, et pour l'année qui s'ouvre, des hommes et des femmes qui disent oui, quel que soit ce que nous réservera 2022. Eh bien, voilà l'homme heureux pour Nietzsche, celui qui pourra accueillir 2022, celui qui se retourne sur 2021 en apposant un grand oui à l'année. Et ça, c'est très dur, en vérité.
Bon, là, je vous sens pleine d'optimisme, même si on sent qu'effectivement, c'est une expérience, c'est une espérance salutaire, cette recherche de bonheur. Et il faut tenter d'en trouver les voies. J'aimerais qu'on s'arrête quand même à un moment sur la définition du bonheur, ou en tout cas ce qu'en dit Schopenhauer. Parce qu'il y a quelque chose d'assez contre-intuitif. Hein. On peut lire tout d'abord, ou relire, un extrait de L'Art d'être heureux, avec cette règle de vie numéro 22. Le jeune homme croit que le monde a été fait pour en jouir, que le bonheur y a élu domicile, un bonheur que ratent uniquement ceux qui ne sont pas assez habiles pour le chercher. Il est renforcé dans cette idée par des romans, des poèmes et l'hypocrisie que le monde cultive toujours et partout en sauvant les apparences extérieures. À partir de là, sa vie est une chasse en vue d'acquérir le bonheur positif, naturellement censé consister en plaisir positif. Le danger du malheur auquel on s'expose ainsi doit être assumé. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Je vous propose d'écouter les explications de Marie-Michèle Blondin, auteure de « Vivre et vivre encore », la notion de vie chez Arthur Schopenhauer. Elle était l'invitée des Chemins de la philo le mois dernier.
Ce que Schopenhauer veut dire, c'est que ce qui est toujours déjà donné avec la vie même, c'est la souffrance. Donc c'est elle qui sera positive, parce qu'elle est toujours éprouvée. Et c'est en ce sens que le malheur comme la douleur sont envisagés comme quelque chose de positif. Le bonheur, quant à lui, serait ce qui vient annuler la souffrance. Donc le bonheur vient soustraire ce qu'on éprouve toujours naturellement. Donc le bonheur n'est pas un état positif au sens où c'est quelque chose qu'on pourrait sentir. Donc pour Schopenhauer, les moments heureux, ce sont ceux qu'on sent le moins. Et il va donner un exemple qui est très parlant. Il va dire que les moments qui sont difficiles, qui sont pénibles, où l'on s'ennuie, ils seront très longs. Donc, on va les sentir pleinement. Alors que les moments de bonheur, on ne les sent pas. Donc, si on passe du bon temps avec des amis, mais tout de suite, c'est terminé, on n'a pas vu les heures passer. Et c'est pour ça aussi qu'il va dire qu'on se rend compte qu'on était heureux et non pas qu'on est heureux. Donc, on se rend compte du bonheur lorsqu'on l'a perdu. Parce que quand il est là, en fait, on ne sent plus la misère, on ne sent plus la douleur, et le bonheur, lui, il vient annuler ses sentiments négatifs. Donc, on n'éprouve pas pleinement le bonheur. Donc, cette quête d'un bonheur durable, qui serait une satisfaction continue, ben, c'est une chimère, c'est une folie.
Voilà, il faut accepter cette idée, pour commencer, Marianne Chaillant, que le bonheur absolu n'existe pas, que c'est une chimère, que c'est une folie.
Oui, c'est du moins ce concept de bonheur dont nous devons nous débarrasser, qu'attaque Schopenhauer, et c'est très bien expliqué par Marie-Michèle Blondin, hein, c'est une chimère. Voilà. Schopenhauer parle d'une erreur innée. Nous naissons avec cette idée que nous existons pour être heureux.
Voilà, vous le citez. Hein, pour ne pas devenir très malheureux, le moyen le plus certain est de ne pas demander à être heureux. Ou encore, la vie, aussi comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui.
Oui, alors bon, j'imagine que vos auditeurs se sentent un peu dupés parce qu'on leur annonce une émission sur le bonheur et puis alors là c'est très très triste, mais il faut quand même regarder la réalité en face. C'est-à-dire qu'il ne faut pas céder parce qu'on recherche le bonheur à des recettes totalement illusoires qu'on peut nous donner éventuellement dans des livres de développement personnel. Si le chemin vers le bonheur est possible, il ne l'est qu'à condition de regarder le réel en face. Et Schopenhauer nous dit bien des choses certes douloureuses, mais néanmoins réelles. C'est-à-dire que les joies ne sont pas durables. Elles ne tiennent pas la promesse, en tout cas, de la durée. Il y a une incomplétude nécessaire de la joie. Et en revanche, il ajoute, et c'est terrible, qu'en revanche, l'expérience de la douleur et de la souffrance, là, nos espérances ne sont jamais déçues. C'est-à-dire qu'on fera une expérience parfaite de la douleur. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, il en tire, lui, la conclusion que ce à quoi nous devons consacrer nos efforts, ce n'est pas à rechercher ce bonheur totalement illusoire, mais à différer la victoire nécessaire du malheur.
Et pourtant, on nous vend quand même, pardon Marianne Chaillon, on nous vend le bonheur partout, dans les livres, les films, les livres que l'on lit, les films que l'on voit, la musique qu'on écoute, et ce depuis très longtemps. Hein. Quand on pense à la Antigone d'Anouilh se heurte à son refus de la demi-mesure, à son désir excessif, et qui va finir par en mourir. Quand on pense, et c'est le titre d'un de vos chapitres, Je suis Bovary, quand on pense à Flaubert et à Madame Bovary, même chose. On se trompe de chemin, on se trompe de sens à donner au bonheur.
Oui, et je le dis sans jugement parce que évidemment je fais une blague sur la phrase de Flaubert sur son rapport au personnage de Madame Bovary, mais je suis Bovary, c'est dire aussi que moi-même j'ai porté en moi, je porte à l'occasion en moi cette maladie, hein, ce mythe inventé par le diable pour nous désespérer, dit Flaubert, qui est cette illusion du bonheur-là. Mais, et vous le dites très bien, toute une certains films, certains livres promeuvent ce concept, agissent en nous comme les livres que a lu Emma Bovary lors de son enfance, agissent en nous comme des psychotropes extrêmement toxiques qui nous persuade que ce bonheur-là non seulement existe, mais qu'il est atteignable. Et en même temps, vous citiez Antigone, dans la pièce d'Anouilh, on a quand même cette idée que celui qui cherche le bonheur, c'est le cas de l'héroïne, est voué à quoi ? À la mort. C'est une leçon qu'on trouve dans les tragédies grecques déjà. Rien de trop, c'est l'hubris que de vouloir chercher tout de suite et que ce soit entier, comme le dit l'héroïne d'Anouilh. La mesure de Créon est déjà plus réaliste, est déjà moins dangereuse. Il faut se défaire donc de ce concept-là, de bonheur, pour tout d'abord ne pas être profondément malheureux, et puis ensuite, dans un second temps, avec la philosophie qui, elle, propose un concept de bonheur assurément moins facile, moins entièrement positif, mais très beau aussi à sa manière, nous ouvre une voie d'accès vers le bonheur.
Alors on va essayer d'emprunter ce chemin moins facile avec vous, Marianne Chaillon, celui de la philosophie. Juste, c'est le pacte faustien que vous venez aussi d'évoquer, cette idée que Faust nous apprend qu'à aspirer à éterniser l'instant, à rendre absolu et durable l'éphémère, et que c'est ainsi qu'on finira aussi damné. Vous racontez cette expérience, ce joli souvenir que vous avez, vous, d'enfant d'une nuit en Espagne, où vous regardiez votre mère danser, en réclamant que cet instant dure toujours, exigence née dans la conscience de son caractère éphémère, j'avais déserté les espaces de la joie pour ceux de la tristesse, voulant la joie qui dure, j'avais trouvé le chagrin.
Tout à fait. Et je suis certaine que nombreux parmi vos auditeurs ont vécu pareille saveur douce amère. Et ce moment où nous Nous sommes projetés hors du plaisir, hors de la joie que nous ressentions, à partir du moment où nous prenons conscience de son caractère éphémère. Et finalement, si on reprend la définition du bonheur, le bonheur, c'est cette idée d'une joie qui dure, c'est une joie permanente. Et c'est en cela que c'est plus fort que la joie. Lorsque lors d'une expérience que nous faisons positive, nous formulons en nous-mêmes, comme Édith Piaf dans la chanson « Mon Dieu », laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux, ou ce moment-là, eh bien, nous sommes damnés. C'est la leçon que nous donne Goethe dans son Faust, effectivement, où Faust est damné, il devient la proie du diable à partir du moment où il s'écriera face à un instant de plaisir, de jouissance, « Reste, tu me plais tant ». Et ce soir-là, en Espagne, que j'évoque, effectivement, j'étais emplie d'un sentiment extrêmement merveilleux, et à partir du moment où j'ai pris conscience de son caractère éphémère, à partir du moment où j'ai voulu l'éterniser, alors quelque chose s'est emparé de moi et qui m'a fait déchoir de cette jouissance. Et finalement, quand on y pense bien, c'est d'avoir aspiré au bonheur alors que j'avais la jouissance qui m'a fait déchoir de la jouissance et qui m'a fait atteindre cet état triste auquel je suis arrivée.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
13h19 sur France Culture avec la philosophe Marianne Chaillant, auteure de « Où donc est le bonheur ?» aux éditions des Équateurs. Vous êtes avec nous en direct, Marianne Chaillant, dans les studios de nos confrères de France Bleu Provence qui vous accueillent et on les en remercie. Alors comment on fait? Où est-ce qu'on va le chercher et le trouver, ce bonheur? Vous dites que le bonheur véritable peut être à notre portée. Comment fait-on? Est-ce qu'il faut commencer par aimer la vie telle qu'elle est?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on pourrait croire là qu'après un tel constat, comme le fait Schopenhauer, après ce constat que nous venons aussi de faire avec Goethe, que toutes les joies sont vouées à disparaître, à s'interrompre, on pourrait se dire alors à quoi bon ? À quoi bon ? Si la souffrance aura le dernier mot, à quoi bon ? Alors le bonheur est une erreur, est une illusion. Eh bien, ce que certains philosophes nous offrent comme pensée, c'est cette idée que c'est lorsqu'on croit qu'il faut se libérer de la maladie, de la vieillesse, de l'angoisse, de la douleur et de la mort, qu'on sera heureux. Ils nous apprennent que le seul véritable bonheur consiste dans la capacité, justement, à assumer cette confrontation inévitable avec la souffrance, avec l'incertitude propre à la vie. Et en ce sens, bien sûr que les hommes pleurent, souffrent et meurent, mais ils peuvent aussi être heureux, non pas dans les brefs moments que leur abandonnera la douleur, mais en dépit de la douleur, et même avec elle, et même en elle. Alors évidemment, c'est très dur, mais c'est cela le bonheur, c'est cet assentiment, cette acceptation de l'essence de la vie, dans son entièreté. D'une certaine manière, on pourrait dire que l'homme heureux est un peu celui qui se tiendrait face à sa vie comme on se tient lorsqu'on se marie et que l'on s'engage avec quelqu'un pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, c'est une semblable promesse que fait face à la vie l'homme qui peut être heureux. Et c'est celui qui va l'aimer pour le meilleur et pour le pire.
Et le bonheur, c'est à la fois un jeu ou une vue de l'esprit, mais c'est aussi une quête, une recherche qui engage les corps. Hein. Et vous le rappelez, cette période pandémique, là encore, nous a rappelé cette question, l'a soulevée. La santé est un sujet sensible aussi. La question des corps dans cet engagement au bonheur et la question de la maladie qui peut l'entamer, vous revenez sur les mots, sur la définition aussi qu'en donnait Ruven Augien, atteint d'un cancer, décédé. C'est dans la maladie que nous nous rendons compte que nous ne vivons pas seuls, mais enchaînés à un être d'un règne différent, dont les abîmes nous séparent, qui ne nous connaît pas et duquel il est impossible de nous faire comprendre notre corps. C'est un allié, la plupart du temps, ou un ennemi de cette recherche du bonheur, notre corps ?
Il est l'un ou l'autre selon ce qu'on lui demande. Si on demande à notre corps de n'être que le médium de la jouissance et du plaisir, alors nécessairement le corps deviendra un obstacle. parce que le corps est aussi, et de manière inévitable, le lieu, un lieu promis à la souffrance, à la déchéance et à la maladie, ou à la mort en tout cas. Et donc, si on attend de lui uniquement d'être un support de jouissance, il devient un obstacle. Le corps est un, alors dans ce cas-là, le tombeau de notre bonheur. Mais si nous comprenons qu'il nous offrira et l'un et l'autre, et que nous acceptons notre être corporel sans... voyez, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, qui visent à se déprendre de cette déchéance ou de ce passage du temps, de cette venue de la douleur ou de la souffrance à travers le corps, signalent une forme de rejet face à l'essence de la vie. Ceux qui luttent contre la déchéance, toutes les déchéances que peut promettre le corps, ont quelque part un rapport de rejet de l'essence même de la vie. Et il n'y a pas du tout de jugement de ma part, mais vraiment en aucune manière. Mais de ce fait, ils se condamnent à ne pas être heureux, car leur lutte face au temps et à ces œuvres destructrices sur notre corps est perdue d'avance. Et donc, seul pourra être heureux celui qui accepte en lui tout ce que sa corporéité lui promet, certes, de plaisir, de jouissance, et elles sont intenses, mais aussi, nécessairement, la maladie.
C'est compliqué, c'est difficile de trouver et de se rendre sur le chemin de cette félicité que vous évoquez, Marianne Chaillant. Tellement ce monde aujourd'hui de la consommation, du désir permanent, de la publicité nous invite aussi à faire mieux que le voisin, à nous comparer. C'est un poison. C'est peut-être ce qu'on pourrait appeler la société Instagram, qui serait le paroxysme de ça. On va écouter un extrait d'une mini-série diffusée sur Arte sur la dopamine.
Ce matin, tu t'es levée toute refaite. Avec la photo trop stylée que t'as postée hier soir, tu vas enfin passer le cap des 10 000 followers. T'as lancé Instagram. Quoi ? Seulement 321 likes et 12 followers de plus ? Alors que ta pote Renite, genre elle est danseuse, 21 000 followers, juste là pour mater son gros bou. Marie, encore un cupcake de merde. 43 000 followers, mais putain, en vrai, se fait vomir 3 fois par jour, la conne. JB, toujours avec son caniche. 54 000 followers, mais qui le n*** son chien ? Cindy, cette grosse pute opportuniste. T'as pété les plombs. Et tu t'es demandé comment ça pouvait te mettre dans un tel état. T'inquiète pas, c'est normal. T'es complètement accro car ces applis sont conçues à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction. La dopamine.
Voilà, tout savoir sur la dopamine, c'est sur arte.tv avec cette mini-série qui évoque les joies et les souffrances d'Instagram aujourd'hui.
Oui, je rappelais tout à l'heure cette phrase de Flaubert, à savoir que le bonheur est un mythe inventé par le diable pour nous désespérer. Et on pourrait peut-être ajouter aujourd'hui que l'un de ses terrains de jeu favoris est désormais les réseaux sociaux et Instagram. On voit bien que c'est quand même le règne, là encore, de l'image. On a ouvert l'émission sur cette image idéale à laquelle nous devrions coller pour les fêtes de fin d'année. Instagram est clairement le règne de l'image. Et d'une image, d'ailleurs, me semble-t-il, sur laquelle personne n'est dupe, en fait. Nous savons qu'il s'agit d'un artifice. Et pour autant, cet artifice fait souffrir celui qui l'observe et qui se sent en défaut par rapport à cet idéal qui lui est proposé.
Et ce qui fait souffrir, c'est ce désir aussi, hein, ce désir inassouvi d'en posséder toujours plus. C'est Pérec dans les choses, hein.
Oui, oui, et en écoutant votre extrait et dans le fil de notre conversation, je pensais à ce film que j'évoque dans le livre The Hours, qui est tiré d'un livre de Michael Cunningham. Si vos auditeurs l'ont vu ou l'ont lu, il y a dans le triptyque qu'il nous offre de trois femmes, il y a un personnage qui satisfait la liste des choses à faire, à accomplir pour parvenir aux yeux de tous, à ce que serait une vie heureuse. C'est le personnage qui est interprété par Julianne Moore. Alors, on n'est pas à l'ère d'Instagram, mais dans le temps qui est le sien, elle satisfait à cette liste d'impératifs extérieurs, de dictature du on, comme dirait Heidegger, pour atteindre le bonheur du on. Et c'est dans le film le personnage le plus malheureux, et elle-même ne peut pas se voiler son propre malheur. Elle a tout pour être heureuse, et précisément, elle ne l'est pas. Ce qu'elle nous apprend, c'est que le bonheur n'est pas dans un rapport d'avoir, de possession, mais dans un rapport d'être. Elle, et d'ailleurs, elle-même est surprise. Comment se fait-il, alors même qu'elle a tout fait, tout ce qu'il convenait de faire, comment se fait-il donc qu'elle ne soit toujours pas heureuse? Et en contrepoint de cette femme, nous avons deux autres personnages. L'un des deux incarne un personnage de la vie réelle, Virginia Woolf. Ces deux femmes, elles, ont des existences cabossées, des existences vraiment déchirées par des manques, de la souffrance. Et pour autant, et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce sont des femmes profondément heureuses. Encore faut-il bien comprendre de quoi on parle quand on parle de bonheur.
Où donc est le bonheur? Vous répondez à toutes ces questions tant que faire se peut. Et on se rend compte que c'est à la fois une question de culture populaire et une question politique, peut-être même de résistance que vous pointez là. Marianne Chaillant, le livre apparu aux éditions des Équateurs. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci. Merci Marianne
Chaillant. Merci encore à vous.
Merci. Merci à Pascal Morel qui vous a accueilli aujourd'hui dans les studios de France Bleu à Aix-en-Provence. Un grand merci à Arthur Dumont qui était à la technique ici à Paris, à la Maison de la Radio avec nous. À la réalisation, c'était Thomas Beau. Lucas Bretonnier pour la Grande Table des Idées avec Marie Fraboulet pour la Grande Table Culture. Joe Star, c'était merci beaucoup à Henri Leblanc qui a programmé cette émission et à Ozana Chauvin qui l'a préparée. Très belle fin d'après-midi à tous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.